Les Clés de Saint-Pierre, une émission présentée par Camille Langlade.
En cette période de carême, le pape, comme le Christ dans les évangiles, invite les catholiques à se convertir, faire pénitence, corriger son comportement, a dit Benoît XVI au cours de l'Angélus ce dimanche. Ce ne sont pas de vieilles paroles imprégnées de moralisme, au contraire, c'est le chemin le plus efficace pour se changer en mieux, soi-même et la société. Benoît XVI engage donc les catholiques à profiter du carême pour purifier leur vie, un moyen peut-être la confession. Le 19 février dernier, le pape a insisté sur le travail spirituel des confesseurs des quatre basiliques pontificales de Rome. C'est une mission à redécouvrir, a-t-il dit, à reproposer dans cette époque marquée par tant de défis moraux et religieux. Ces prêtres, appelés pénitentiaires, sont 80. À Saint-Pierre, vous pouvez les retrouver au fond de la basilique à droite, dans plusieurs langues. Pour le français, c'est le père Isidore Gatti.
Nous sommes ici dans le parloir de la résidence des pères pénitentiaires, les collèges des pères pénitentiaires dans le palais du tribunal dans la cité du Vatican. Juste à côté de la basilique, sous la coupole de Saint-Pierre, disons, on peut la toucher de sa main.
Père Isidore Gatti, franciscain cordelier, il est confesseur à la basilique Saint-Pierre pour le monde francophone.
Nous sommes ici pour parler aussi des rencontres spirituelles avec tous les pèlerins et aussi avec des touristes qui entrent dans la basilique et qui sont comme ravis par la beauté de l'art, de la musique, qui sont saisis par la grâce de Dieu.
Ça pourrait être la particularité alors de la basilique Saint-Pierre. Vous voulez dire que les gens qui viennent se confesser, beaucoup de touristes francophones, souvent ne l'ont pas fait depuis très longtemps ?
C'est vrai. Quelquefois, il y a des personnes qui me disent « C'est la première fois de ma vie que je me confesse. » En entrant ici, même comme touriste, j'ai été vraiment saisi par la musique de la messe, le chant, le Magnificat de Vêpres. Alors j'ai comme entendu la présence de Dieu. Et j'ai pensé « Je suis chrétienne ou chrétien, je veux vraiment me réconcilier avec un Dieu si beau. » Si bon, si vrai.
Que leur dites-vous alors pour les mettre en confiance ou bien comme premier contact ?
Une cordiale salutation, je leur demande comment ils sont venus ici, s'il y a un groupe, s'ils sont seuls. Alors je cherche à les mettre à leur aise et après ils s'ouvrent, ils mettent des voiles, les mystères, les secrets de leur vie spirituelle. Et j'ai pu toucher aussi, disons, quasiment physiquement, la présence de la grâce de Dieu. Et ils partent vraiment tout contents. Il y a quelques pénitents ou touristes qui arrivaient, qui pleurent aussi pour la joie d'avoir retrouvé Dieu et sa miséricorde.
La plupart des gens qui viennent vous voir sont des gens qui sont en recherche alors, ou bien qui sont éloignés de l'Église. Est-ce que c'est une évolution des catholiques qui viennent vers vous depuis quelques années ?
Il y en a beaucoup qui se sont éloignés de l'Église, quelquefois à cause d'un mauvais exemple d'un prêtre, d'une personne religieuse ou tout simplement catholique. Mais enfin, ils ont reçu une bonne éducation chrétienne et ils pensent, la grâce de Dieu travaille. Alors, ils me posent leurs doutes et avec une grande bonté et courtoisie, je leur explique. Quelquefois, ils sont dans une situation très irrégulière face à l'Église, donc je ne peux pas conclure la confession, par exemple, un mariage civil. Mais je parle, je les prépare, je leur donne une feuille avec l'examen de conscience, je leur explique l'origine divine du mariage, et à la fin, presque tous, ils me disent « Mon père, j'irai réfléchir vraiment de tout mon cœur sur ce que vous m'avez dit. » Et voilà le confesseur éducateur.
Nous arrivons au discours de Benoît XVI le 19 février dernier au pénitentiaire. Il parle des confesseurs comme des pères, des juges, des éducateurs, vous venez de le dire, des maîtres aussi. Comment avez-vous reçu ce discours ?
Pourquoi les pères ? Parce que arrivent quelquefois des âmes dans un état de péché, d'une vie vraiment passée très loin de Dieu. mais ils ont une bonne volonté et aussi une grande humilité. Alors je dois les accueillir et comme les embrasser spirituellement pour les encourager à reconnaître leurs péchés et leur proposer des bonnes résolutions. Presque tous, ils acceptent volontiers en remerciant Dieu. J'ai bien compris la parole de Dieu parce que je sentais toujours dans mon âme un grand poids. Et donc, vous, comme Père, m'avez embrassé, vous m'avez donné la paix de mon âme avec le pardon de Dieu et l'explication de sa parole. Le Père, sans jamais offenser, plutôt encourager, plutôt embrasser comme un père le fils prodigue.
Benoît XVI insiste sur ce point. Le confesseur n'est pas un spectateur, mais l'instrument actif de la miséricorde divine. Il conseille aux prêtres de cultiver leur sensibilité spirituelle et pastorale et de se préparer sérieusement pour être capable de comprendre le vécu de la personne. Le père Pascalide de l'Emmanuel vit à Rome depuis 8 ans. Il nous livre son expérience et la difficulté d'accueillir le mieux possible cette personne.
Quand je confesse quelqu'un, je fais bien la distinction de la manière suivante pour que la personne comprenne que le sacrement vient de Dieu. Pour qu'elle comprenne bien que nous ne sommes qu'un instrument, qu'un canal par lequel Dieu fait passer sa grâce, je ne donne quasiment jamais de conseils dans la confession. C'est-à-dire que le pénitent avoue ses péchés, aussitôt après, je lui donne le pardon de Dieu, la formule sacramentelle, l'absolution.
Benoît XVI insiste sur le rôle, les différents rôles du confesseur. Il insiste sur la figure du père. Ce n'est pas seulement un père, mais c'est d'abord un père.
Oui, c'est vrai qu'il y a un côté juge aussi, dans la mesure où il est important d'évaluer s'il y a péché ou non péché. Dans ce sens-là, il y a une injustice qui est commise par rapport à Dieu, par rapport aux autres et par rapport à soi. Dans ce sens-là, il y a vraiment un rôle de juge qu'on oublie un petit peu. Mais il est aussi et d'abord père parce que c'est d'abord la miséricorde. Vous savez, plus je confesse et plus je me dis, mais c'est incroyablement difficile de confesser son péché. Pourquoi ? Si on suit l'idée de la grande idée de Jean-Paul II selon laquelle l'acte révèle la personne, un acte mauvais, et intègre la personne aussi, dit Jean-Paul II, un acte mauvais signifie donc quelque chose qui est profondément humiliant. Reconnaître que j'ai fait quelque chose de mauvais, c'est profondément humiliant. C'est-à-dire que j'ai raté un peu ma vocation, je me suis trompé de bonheur, finalement, c'est ça, un péché, c'est se tromper de bonheur. Et on ne peut pas s'avouer ça sans, en quelque sorte, se détruire au second degré. Je me suis d'abord détruit par mon péché et je le reconnais, ce qui fait que je m'enfonce encore plus. C'est pour ça qu'on a du mal à reconnaître son péché. On ne peut le faire que si on se sait plus aimé qu'on a aimé nous-mêmes notre souillure, comme disait Pascal. Et voilà pourquoi nous sommes d'abord pères, parce que la personne sait que l'amour dont il est enveloppé est plus important que la haine qu'il lui-même a pu vivre à travers son péché. Et donc, c'est toujours la parabole de l'enfant prodigue qui est derrière. Le père laisse parler son fils, donc il reconnaît son péché, mais il l'interrompt parce qu'il dit « ça y est, bon, c'est bon, c'est pas la peine d'aller plus loin maintenant, il peut vraiment être pardonné ». Et puis, c'est seul un père, et non pas un juge, a un amour qui transforme le cœur de son fils.
Une dernière question, alors, sur l'évolution du rôle de la confession, qu'est-ce que cela révèle des défis de la société aujourd'hui et de la personne, surtout, les personnes en demande ont changé ?
Je pense qu'il y a un changement de la demande, moi j'ai pu voir ça, et je reçois beaucoup plus de personnes qui sont en souffrance, c'est-à-dire qu'elles ne viennent pas pour rencontrer d'abord un confesseur, ni même forcément un prêtre, mais d'abord quelqu'un qui a une vie spirituelle et qui peut les éclairer. Elles viennent vous parler de leur souffrance sans forcément faire la part des choses entre les deux sortes de souffrances qui sont d'un côté la blessure, de l'autre côté le péché. Et je pense qu'en effet, c'est assez typique d'une société où il y a un fort brouillage des repères, où finalement le critère ultime est le critère un peu sentimental de « je me sens pas bien, je sens un malaise », et où l'absence de repères universels et objectifs se traduit donc par cette difficulté folle. Et là, je crois qu'on a, dans ce sens-là, la parole de Benoît XVI me paraît très juste. On a plus qu'autrefois, dans un monde qui est quasiment devenu un grand hôpital, besoin de prêtres bien formés qui sachent opérer ces distinctions, non pas jouer au psy, et ça supposons que le prêtre n'ait pas bien sûr toutes les compétences, mais connaisse tous ces champs, et donc, par sa vision intégrale de l'homme, puisse permettre à la personne de s'intégrer.